Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le lundi 14 juillet 2025. Voici les principaux titres de l'actualité.
Lee Jae-myung envoie ses émissaires auprès des principaux pays partenaires. Les pétroglyphes de Bangoudé et le mont Gumgang inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et enfin, les étudiants en médecine annoncent leur retour en classe.
Le président sud-coréen a décidé d'envoyer dès aujourd'hui ses émissaires spéciaux auprès de l'Union européenne, de la France, du Royaume-Uni et de l'Inde. Leur mission est de transmettre les lignes directrices de la gouvernance et de la diplomatie de son administration. D'après le bureau présidentiel, Yoon Yeo-jun, l'ancien ministre de l'Environnement, mène la délégation auprès de l'UE. Elle sera composée de Son Myung-soo et de Chun Hyun-hi, deux élus du Minju, le parti au pouvoir. Kang Geum-sil, ancienne ministre de la Justice, conduit celle pour la France. Chun Hye, député du Minju, est l'émissaire pour le Royaume-Uni, tandis que l'ex-premier ministre Kim Bo-geum est envoyé en Inde. Ils sont tous les trois accompagnés de députés du parti de centre-gauche afin de faire savoir que la démocratie sud-coréenne reste inébranlable malgré la récente crise politique.
Le mont Gumgang, situé en Corée du Nord, a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO lors de la 47e session du comité du patrimoine mondial tenue samedi à Paris. Le nom officiel déposé par le royaume ermite est mont Gumgang, montagne de diamants vue de la mer. Selon le comité, le mont Gumgang possède une grande valeur culturelle en raison de ses topographies et paysages uniques, ainsi que de ses histoires liées au bouddhisme et à la tradition populaire. Avec son haut sommet Bilobong, culminant à 1638 mètres, il se caractérise par des falaises abruptes, des cascades et des vallées. Il offre également des panoramas spectaculaires variant selon les saisons et abrite également une grande diversité d'espèces végétales. Le mont Gumgang devient ainsi le troisième site nord-coréen à figurer sur la liste du patrimoine mondial. La Corée du Sud a elle aussi vu plusieurs de ses sites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les pétroglyphes préhistoriques de Bangoudé à Ulsan, comprenant ceux de Daegu-gli et de Jeonjeon-li. Ce choix a été justifié par le fait que ces gravures rupestres réalistes exécutées avec un sens aigu de l'observation témoigne de la maîtrise artistique des peuples ayant vécu dans la péninsule coréenne. Le comité a souligné qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre illustrant la créativité des communautés préhistoriques à travers des images représentant différents types de baleines ainsi que les principales étapes de leur chasse, avant d'ajouter que ces dessins attestent d'une tradition de sculpture rupestre qui a perduré pendant environ 6000 ans et qu'ils montrent de manière concise l'évolution culturelle des habitants côtiers de la péninsule. Avec cette inscription, la Corée du Sud compte désormais 17 biens sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Relations sud-coréano-américaines. Aux États-Unis, la Commission des forces armées du Sénat a approuvé le 9 juillet le projet de loi d'autorisation de la défense nationale NDAA pour 2026. Ce dernier prévoit notamment des restrictions sur la réduction des effectifs militaires stationnés en Corée du Sud, ainsi que sur le transfert du contrôle opérationnel en temps de guerre OPCON de Washington à Séoul. Le NDAA est une loi fédérale qui fixe les niveaux de financement des forces américaines pour une année fiscale donnée. Selon un résumé publié par la Commission, la nouvelle législation interdit toute réduction du dispositif militaire américain dans la péninsule coréenne ou toute modification du contrôle opérationnel en temps de guerre du commandement des forces combinées. Tant que le secrétaire à la défense n'aura pas certifié devant le Congrès qu'une telle action est dans l'intérêt national. En outre, elle ordonne au chef d'état-major interarmé ainsi qu'au commandant du commandement Indo-Pacifique et des forces américaines en Corée du Sud de procéder à une évaluation indépendante des risques liés à de tels changements. Cette adoption intervient dans un contexte d'inquiétude grandissante face à un possible retrait des JI déployés au sud du 38e parallèle. Récemment, le Wall Street Journal a rapporté que l'administration Trump étudiait la possibilité de déplacer 4500 soldats pour les redéployer sur d'autres sites. Le 8 juillet dernier, le président américain a déclaré estimer que Séoul devrait verser 10 milliards de dollars par an à Washington pour contribuer au coût de défense des forces américaines dans la péninsule.
Alors que Donald Trump a annoncé la semaine dernière l'imposition de surtaxes de 25% sur les produits made in Korea à partir du 1er août, le ministre sud-coréen délégué au commerce a déclaré qu'il était temps de faire des choix et de prendre des décisions. De retour de sa deuxième visite à Washington, effectuée du 5 au 10 juillet pour mener des négociations tarifaires avec de hauts responsables américains, Yohan Koo a souligné ce matin l'importance de parvenir à un consensus national. Le ministre a affirmé que le temps pressait, que les négociations avec les États-Unis portaient sur la définition des grandes lignes. Il a ajouté qu'il était nécessaire de mener des concertations internes pour déterminer le niveau d'acceptation par rapport aux demandes américaines. Selon lui, l'administration de Trump est déterminée à réduire structurellement son déficit commercial. Il a estimé qu'au-delà de ses investissements et achats réalisés auprès de Washington, Séoul pourrait être amené à revoir sa réglementation et à améliorer ses systèmes qui puissent constituer des barrières commerciales à ses yeux. Il a notamment mis en avant la nécessité de prendre des décisions stratégiques dans le secteur agricole afin de parvenir à une entente plus large. Enfin, le responsable sud-coréen fait savoir qu'il consulterait autant que possible les ministères concernés, les parties prenantes ainsi que l'Assemblée nationale au cours de cette semaine avant de repartir pour les États-Unis afin de poursuivre les négociations.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Les étudiants en médecine qui boycottaient les cours depuis un an et cinq mois ont décidé de retourner sur les bancs de l'université. Cela pourrait constituer un tournant majeur dans le conflit opposant le corps médical au gouvernement, déclenché par le projet de relèvement du numerus clausus dans les écoles de médecine. L'Association coréenne des étudiants en médecine a annoncé cette décision samedi lors d'une conférence de presse conjointe avec la commission parlementaire de l'éducation, celle de la santé et du bien-être, ainsi qu'avec l'Association coréenne des médecins. La date de retour n'a toutefois pas été précisée. Le ministère de l'Éducation s'est félicité de cette décision, tout en précisant que le calendrier et les modalités seraient définis à l'issue de discussions avec les universités et les ministères concernés. Par ailleurs, l'Association des étudiants en médecine a demandé au président Lee Jae-myung et au gouvernement d'élaborer un plan global pour établir le calendrier académique et de mettre en place un organe consultatif chargé de revoir le système d'exercice médical et d'améliorer les conditions de stage des futurs médecins. Les représentants de l'Assemblée nationale et de l'Association des médecins ont de leur côté annoncé qu'ils créeraient un groupe de discussion technique avec les parties concernées afin de définir des mesures concrètes.
Les procédures de confirmation des membres du gouvernement de Lee Jae-myung commencent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Elles s'étaleront jusqu'à la fin de la semaine. Ce lundi, quatre potentiels ministres font face aux questions des députés. Il s'agit de Kang Son-woo, désigné à l'égalité des genres et à la famille, de Baek Young-hoon, aux sciences et au TIC, de Chang Dong-yang à la réunification et de Chun Chae-soo aux océans et à la pêche. L'audition de Kang s'annonce mouvementée. Dès sa désignation, elle a fait l'objet d'une polémique. Ses députés du Minju, le parti présidentiel, est suspecté d'avoir scellé certains de ses assistants parlementaires, une allégation contestée par l'intéressé. Le parti du pouvoir du peuple, le PPP, la première force de l'opposition, lui demande de se retirer de son propre gré. Il fait de même pour deux autres candidates, Lee Jin-suk et Chang Eun-kyung, choisis respectivement à la tête du ministère de l'éducation et de celui de la santé. Elles doivent passer leur grand oral mercredi et vendredi. Il est notamment reproché à Lee, ancienne présidente de l'université de Changnam, d'avoir plagié plusieurs thèses de ses étudiants. Quant à Chang, la controverse porte sur son mari, soupçonné d'avoir investi dans des actions liées au Covid-19 alors qu'elle dirigeait l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies. Le PPP dénonce un conflit d'intérêts.
Et un mot d'économie pour terminer. L'Organisation de coopération et de développement économique OCDE est optimiste pour la croissance sud-coréenne. Son indicateur composite avancé ICA pour le pays du matin clair publié hier continue de grimper pour le 7e mois consécutif, atteignant 101,08 points en juin, du jamais vu depuis 3 ans et 7 mois. Conçu pour anticiper les points de retournement de l'activité économique avec 6 à 9 mois d'avance, ce baromètre peut donc signaler une accélération probable de la croissance au cours des prochains mois. Un ICA supérieur à 100 suggère que le niveau de la progression future de PIB dépasse la tendance à long terme. Pour la Corée du Sud, l'indicateur restait en dessous de 100 entre juillet 2022 et janvier 2024, avant de franchir ce seuil le mois suivant à 100,02. Depuis, sa courbe monte progressivement. Le mois dernier, il était le deuxième plus élevé parmi ceux des 12 pays étudiés.
C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kim Hong-ju et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité. Bonne semaine à l'écoute de KBS World Radio.